Radio Kapi.
Oh, Kapi.
C'est la rentrée parlementaire demain lundi pour la session de mars en RDC. Sur la table des députés et sénateurs, l'insécurité dans l'est du pays, mais aussi des dossiers politiques et économiques comme les accords de Washington. La RDC et la Chine organisent un forum des médias de 2 jours la semaine prochaine à Kinshasa à travers leurs agences de presse. Entre autres participants attendus, des journalistes, chercheurs, experts des médias. Pour le ministre de la Communication, le but est notamment de renforcer la collaboration entre les médias des deux pays. Avec notre invité Faustin Niébonnet, directeur de l'AICED, il sera question de la campagne de lutte contre la pollution plastique que cette organisation mène à Goma à l'intention des femmes. Mais quel est le lien entre le plastique et les droits de femmes? Il répond dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Les députés nationaux et sénateurs reprennent officiellement le chemin de l'hémicycle demain lundi 16 mars à Kinshasa. C'est après 3 mois de vacances parlementaires. La session ordinaire de mars s'ouvre dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans l'est du pays, mais aussi par plusieurs dossiers politiques et économiques majeurs. Parmi eux, la ratification d'accords récemment conclus par le gouvernement et l'évaluation de l'exécution du budget de l'État. Plus de détails avec Grace Samzati, notre permanent au Parlement.
La session ordinaire de mars prévue par la Constitution est traditionnellement consacrée au contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. Au menu notamment, l'évaluation trimestrielle de l'exécution du budget de l'État, ainsi que les traditionnelles questions orales et autres mécanismes de contrôle à l'endroit de l'exécutif. Cette session intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant. Dans l'est du pays, plusieurs territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu restent occupés par la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, tandis que les rebelles ADF poursuivent leurs attaques dans les régions de Beni Lubero au Nord Kivu et à Ituri. Autre dossier attendu, l'examen des projets de loi portant ratification de l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda, ainsi que de l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis. Ces textes sont déjà déposés au Parlement par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Pour la chef du gouvernement, il est important que les élus du peuple examinent ces accords afin d'en informer la population et d'accompagner les efforts en faveur de la paix et du développement du pays. Par ailleurs, cette session s'ouvre alors que les débats autour d'une éventuelle révision de la Constitution refait surface dans la classe politique congolaise, un sujet qui pourrait également alimenter les discussions entre parlementaires.
Le gouvernement congolais annonce l'organisation la semaine prochaine à Kinshasa d'un forum média entre la République démocratique du Congo et la Chine à travers l'agence congolaise de presse ACP et l'agence Chine Nouvelle. C'est le ministre de la Communication et Médias, également porte-parole du gouvernement, qui a porté cette annonce au Conseil des ministres. Pour Patrick Mouyaya, ces assises de 2 jours seront une occasion de consolider le dialogue stratégique et de renforcer la collaboration professionnelle entre les médias congolais et chinois. D'autres précisions sur cette rencontre avec vous, Christian Makassi.
Environ 100 participants sont attendus, dont près de 60 représentants chinois, parmi lesquels de journalistes, des experts des médias et des représentants d'entreprises chinoises opérant en RDC. Du côté congolais, plusieurs acteurs du secteur prendront part aux échanges, notamment le directeur provincial de l'agence congolaise de presse, des journalistes de médias publics et privés, ainsi que des chercheurs et experts en communication. Les ministres de la communication et médias estiment que ces forums constituent une opportunité de renforcer les dialogues stratégiques et la coopération professionnelle entre les acteurs médiatiques congolais et chinois. Et il précise par ailleurs l'engagement du gouvernement à accompagner l'organisation de ces assises qui se dérouleront en 2 journées. La première, prévue le 18 mars 2026, sera consacrée à la cérémonie officielle d'ouverture suivie d'un panel de haut niveau sur la coopération médiatique et diplomatique entre les deux pays, ainsi que sur le rôle des médias dans l'accompagnement du partenariat économique sino-congolais. La deuxième journée, le 19 mars, sera dédiée aux travaux techniques réunissant journalistes, experts et universitaires autour des défis actuels du journalisme, notamment la transformation numérique du secteur et l'apport des technologies émergentes dans la production de l'information.
En Ituri, la défenseure globale des Nations Unies pour la paix, Myriam Boukar Hassan, en mission au chef-lieu de la province, a échangé hier samedi avec des femmes leaders ainsi qu'avec des femmes issues des différents contingents de la MONUSCO. Objectif, apporter un soutien psychosocial aux femmes traumatisées par des conflits armés. Elle a également participé à une patrouille motorisée et pédestre des casques bleus dans les rues de Bounia. Le point avec Isaac Raymond.
Échange autour des problèmes spécifiques des femmes et participation aux patrouilles des femmes casquées bleues de la MONUSCO ont marqué la première journée de la visite de la défenseure globale des Nations Unies pour la paix. À travers ces activités, Myriane Boukarassane a voulu encourager les femmes à surmonter les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, mais aussi à assumer pleinement leur rôle d'architecte de la paix.
Type of activity is important because women activity est très important parce que les femmes sont très importantes pour la construction de la paix et c'est important de prendre en compte la spécificité psychologique. Je prie pour la paix et chaque chose a une fin et je prie pour que ce jour arrive, pour que la paix arrive en fin de vie, so that they can find peace.
La présidente du collectif des femmes de l'Ituri affirme que cette visite redonne espoir et sourire à ces femmes dont la plupart ont été victimes des affres de la guerre. Elisabeth Bouvet.
Dans le peu de temps, on a eu à dégager les femmes de leurs problèmes. Ils ont une solution psychologique et la détraumatisation. C'est une façon de la recherche de sa joie perdue. C'est là qui était un peu, je dirais, étouffée par les problèmes.
Myriam Boukarassane a également salué le dynamisme des femmes de l'Ituri dans leurs efforts pour leur autonomisation. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Les femmes administrateurs gestionnaires des institutions de santé dans la province du Maniema réclament leur droit à la promotion. Elles se sont exprimées ainsi hier samedi devant des autorités sanitaires de la place à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour la représentante de ces femmes, bien qu'elles aient des compétences, ces dernières ne bénéficient d'aucun avantage contrairement à leurs collègues hommes. Elles souhaitent que cette discrimination cesse. Gisèle Munke-Njeka explique leur démarche au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes plus de 60 femmes administratrices gestionnaires des institutions de santé dans la province du Maniema. Mais les conditions dont nous sommes en train de travailler ne sont pas bonnes. La femme âgée dans la province du Maniema est discriminée. Elle n'occupe aucun poste de prise de décision dans le secteur santé. Nous n'avons aucun avantage. Même s'il y a des missions, des services, on accorde toujours la chance aux administrateurs gestionnaires hommes, pas aux administrateurs gestionnaires femmes que nous sommes. Alors que et les administrateurs gestionnaires hommes, comme nous les femmes, tous nous avons les compétences de travailler, de gérer, de coordonner, comme nous avons été formés à l'université. Mais malheureusement, il y a l'absence totale dans les postes de prise de décision, même dans les activités, dans le secteur santé, pour une femme agisse au Maniema. C'est ainsi que, à l'occasion de ces mois de la femme, nous saisissons de cette occasion pour rehausser la voix aux autorités, de penser pour la femme administrateur gestionnaire que nous sommes au Maniema, pour sa promotion, pour son repositionnement, la considération aussi que la femme est âgée soit considérée comme les hommes.
Province du Tanganyika, un ressortissant chinois a été retrouvé hier samedi. Il avait été kidnappé vendredi par des coupeurs de route dans les territoires de Manono. Ces bandits armés ont tendu une embuscade sur l'axe Manono-Kiambi. Le chinois, son chauffeur et un policier ont été blessés. L'administrateur du territoire de Manono confirme l'information. Il annonce que des militaires des FARDC sont en train de traquer ces assaillants. Autre précision avec Paula Munanga.
D'après l'administrateur du territoire de Manono, le Chinois est un employé de l'entreprise Craxit. Il a été retrouvé avec une blessure à la main. Signalons que l'attaque a eu lieu ce vendredi aux environs de 9h locales après Kanteba, un village situé à 7 km de Manono centré sur l'axe Manono-Kiambi. Le Chinois, accompagné de son chauffeur et d'un policier, revenait de la cité de Kiambi où Craxit, son entreprise, exécute des travaux de réhabilitation routière. Au cours de l'attaque, les chauffeurs et les policiers ont été blessés par des hommes armés non autrement identifiés et le Chinois a été kidnappé, souligne l'administrateur du territoire de Manono, Cyprien Kitangakibale.
Les hommes en uniforme, la milité, les ont suivis et se sont échangés pendant 10 à 15 minutes. Ça n'a pas été et puis les bandits sont allés avec les Chinois en brousse. C'est hier aux environs de 17h que les Chinois étaient retrouvés au même endroit là. Mais malheureusement, il était touché par balle en main et il est en train de suivre les choses appropriées. Il y a un chauffeur qui a été blessé et un policier aussi.
Signalons que des ressortissants chinois sont souvent la cible des coupeurs de route dans la province du Tanganyika. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Retour en Ituri. Plusieurs habitants de Badengaido se déplacent depuis samedi vers Nyanya et Mambasa dans les territoires de Mambasa. À l'origine de ce mouvement des populations, l'attaque depuis mercredi du site minier de Muchacha, situé à une dizaine de kilomètres de Badengaido par un groupe armé en gestation. Ces hommes armés ont également attaqué samedi une équipe de FARDC à Pengé. Sur la nouvelle société civile du territoire de Mambasa, le bilan provisoire fait état de 7 morts, de plusieurs dizaines de personnes enlevées, ainsi que des maisons pillées et incendiées. Les activités sont paralysées dans la zone. Ces informations que Isaac Rimoyope a recueillies sont rendues ici par Vanessa Kongolo.
La situation sécuritaire s'est nettement détériorée autour du site minier de Muchacha, près de Baindeigo, dans les territoires de Mambasa. Craignant pour leur sécurité, de nombreux habitants ont fui leur village pour se réfugier à Nyanya et à Mambasa. Conséquence, les activités économiques et scolaires sont presque à l'arrêt dans ces entités, indique la nouvelle société civile locale. Lors de l'attaque du site minier de Muchacha, les assaillants ont également pillé les biens de la population et incendié plusieurs maisons. Selon la nouvelle société civile du territoire de Mambasa, au moins 7 personnes ont été tuées et une centaine d'autres enlevées. Une partie des otages aurait déjà été libérée par les hommes armés. Samedi, ces derniers ont aussi attaqué un Mpenge, un véhicule de FARDC qui s'est rendu en renfort vers Muchacha. Un militaire a été blessé, tandis que d'autres soldats se seraient repliés. Pour l'instant, une forte psychose règne dans la zone. Les habitants demandent une intervention urgente de l'armée pour neutraliser cette milice. Jusqu'à présent, le gouvernement provincial ne s'est pas encore exprimé sur cette situation.
Au Kassai-Oriental, plusieurs travaux de différents chantiers de construction et de modernisation de l'aéroport de Bipemba sont presque terminés. Romain Chinyama, commandant de la régie de voies aériennes RVA, nous parle de l'état d'avancement de ces travaux. Il est au micro des stands à la FINA.
Nous sommes en travaux de finissage actuellement. Pour la plupart de tous les projets, compris dans le PPSA 2, sont en phase de finissage, donc ils ont pour la majorité donc dépassé les 90%. Donc nous avons la tour de contrôle qui est en travaux de finissage. Il reste beaucoup plus du côté de la vigie où il faudrait placer les rideaux de verre, parce qu'ils sont pratiquement dans les 90% et au-delà. Donc le nouveau tarmac, ils sont maintenant en train de placer la couche anti-kérosène. Ils sont dans les 95% pratiquement. Nous prenons la centrale électrique où ils sont en train maintenant d'installer tous les différents équipements. Installer tous les différents équipements qui étaient là. Donc ils sont aussi dans les 90%. La caserne anti-incendie, ils sont dans les 92 ou 13%. Et il nous reste certains travaux pour pratiquement finir. Hein. Donc on entend par là les forages qui nous restent. Bon, la chaussée aéronautique, c'est-à-dire la piste, la chaussée aéronautique, on entend tarmac et les pistes. La piste était déjà refaite et est en utilisation depuis pratiquement déjà, je crois, 3-4 mois.
Ici à Kinshasa, l'avancement des travaux sur la route de Kimwenza dans la commune de Mongafula redonne espoir aux habitants et aux usagers longtemps confrontés à l'impraticabilité de cet axe. Pour de nombreux habitants, cette route représente bien plus qu'un simple axe de circulation. Elle constitue un passage essentiel vers les écoles, les lieux de service, les zones d'approvisionnement en denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité qui alimentent plusieurs quartiers environnants. Daniela Awa s'est rendue sur place.
Rencontré sur les lieux de travaux, un père de famille venu accompagner ses enfants à l'école s'est réjoui de l'avancement du chantier.
Au début, la difficulté était plus grande parce qu'on était obligé de laisser nos véhicules quelque part. Je suis un parent, je quitte ce beau, j'amène mes enfants à une école de l'autre côté, obligé de traverser la partie ravin. Mais parlant de travail, ça évolue très bien.
Pour cette vendeuse de légumes rencontrée près du chantier, la réhabilitation de la route représente une véritable satisfaction pour les activités commerciales.
Nous étant les vendeuses de légumes, nous avons tellement souffert par rapport à l'état de la route. Petit à petit, nous reprenons nos activités, nous sommes très contentes.
Les conducteurs de taxi-moto, très présents sur cet axe, saluent eux aussi l'évolution des travaux. L'un d'eux témoigne des difficultés qu'ils ont traversées durant les mois passés.
Nous avons connu de longues difficultés sur cette route. Il était impossible d'arriver jusqu'à Kimwenza, même quand un client y est demandé. D'ailleurs, cet endroit est devenu un arrêt.
Pour ces usagers, l'évolution des travaux marque déjà la fin progressive d'une longue période de difficultés sur cet axe essentiel de la commune de Mongafula. N'ayant pas souhaité s'exprimer à notre micro, l'entreprise qui exécute les travaux nous a tout de même préciser que cette route sera ouverte incessamment.
Actualité internationale.
Séjour de vote aujourd'hui chez les voisins du Congo-Brazzaville. Les électeurs se rendent aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. Mais déjà la victoire de Denis Sassou Nguesso, 82 ans, dont 40 cumulés au pouvoir, semble acquise. Il n'a face à lui que 6 candidats peu connus ou sans réelle assise politique. Les principaux partis d'opposition ont décidé de boycotter le scrutin qu'ils jugent non transparent. Environ 2,5 millions d'électeurs ont été enregistrés. Les bureaux de vote sont censés rester ouverts de 7 à 18 heures, heure locale. Notez que le Congo-Brazzaville a la même heure que la ville de Kinshasa. Bobi Wine, chef de l'opposition en Ouganda, a déclaré hier avoir fui le pays pour échapper à une chasse à l'homme menée par l'armée. C'est un exil forcé pour l'ancien musicien recherché après le scrutin du 15 janvier remporté par le président Yoweri Museveni avec 71% de voix, résultat rejeté par Bobi Wine. L'opposant dit être à l'étranger pour des engagements cruciaux sans divulguer son lieu d'exil.
L'invité.
À Goma, l'organisation Appui aux initiatives communautaires de conservation et de développement durable, AICED, mène tout au long de ce mois de mars une campagne de lutte contre la pollution plastique à l'intention des femmes. Mais quel est le lien réel entre le plastique et le droit de femme? Et pourquoi est-il urgent pour les femmes d'adopter des comportements dits écologiques? Faustin Niebone, directeur de l'AICED, est notre invité. Ils sont traités à ce sujet avec Rosalie Zawadi.
Faustin Niebone, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Dans votre campagne de lutte contre la pollution plastique, vous commencez par expliquer l'origine du plastique.
Ça vaut la peine d'expliquer d'où vient le plastique. Et quand on sait d'où vient le plastique, on saura vraiment que ça peut nous faire du mal. Le plastique vient du pétrole qu'on trouve dans les sous-sols. Et lorsqu'il est à l'état brut, c'est une matière molle comme la pâte et qui s'enflamme vite. Pour qu'il soit plastique, il ne s'enflamme pas vite, on ajoute les additifs. Et là, on va dire retardateur de flamme. On veut que le plastique soit dur, qu'il puisse résister. On y ajoute des additifs qu'on appelle stabilisants. Et là, on y ajoute parfois les plombs. On veut que le plastique résiste aux agents physico-chimiques comme les ultraviolets. On ajoute aussi les additifs. Et là, on voyait maintenant, c'était une matière molle. Tout ça, maintenant, on a le plastique. On a travaillé au laboratoire. Maintenant, ce sont ces additifs-là qui constituent les problèmes pour la santé. Soit ça peut être par l'ingestion, c'est-à-dire on a bu, soit par inhalation, on a brûlé le plastique, alors tout ce qui est gaz là, on va respirer, ou même par contact avec la peau, ça c'est l'intoxication cutanée.
Et dans cette campagne, vous parlez de la corrélation entre la pollution plastique et les droits des femmes. Comment vous expliquez ça?
Nous voulons montrer que la pollution plastique, c'est une question de justice et liée au genre. Pour dire aussi que la pollution plastique impacte plus les femmes que les hommes. Donc pendant que les femmes sont en train de réclamer leurs droits, les femmes doivent comprendre que le plastique nuit beaucoup à leurs droits, surtout la santé. Et cela à deux niveaux. Parce qu'il y a d'abord l'anatomie même de la femme et sa physiologie, la prédispose plus à la pollution que les hommes et même les habitudes des femmes. Les femmes ont beaucoup d'hormones que nous. Maintenant, comme les hormones naturelles sont des substances chimiques, sécrétées dans les sacs, ça aide le fonctionnement des organes. Maintenant, comme ces additifs-là aussi sont des substances chimiques, une fois dans le sang, ça va perturber, ça va empêcher aux hormones de jouer leur rôle. Maintenant, ils vont perturber le fonctionnement des hormones chez la femme. Maintenant, comme la femme en a beaucoup, et ça va plus perturber chez elle que chez l'homme. J'ajoute encore un autre exemple. Il y a la physiologie, le cycle menstruel. Les hommes n'en ont pas, mais les femmes en ont chaque mois. Maintenant, que font les femmes? Elles utilisent souvent ce qu'on appelle les bandes hygiéniques. Or, ces bandes hygiéniques-là, ce sont des plastiques. Ça contient ces additifs-là, phtalates et biphénol. Et la femme, en mettant ça avec l'absorption cutanée, mais ça entre encore dans le sang de la femme. Ça l'impacte aussi, ça perturbe son fonctionnement endocrinien.
Vous avez parlé aussi des habitudes.
Parfois, on dit la fille va allumer le feu, la maman à côté là. Elle allume le feu avec les plastiques. Elle est toujours impactée. Maintenant, elle commence à inhaler ces gaz toxiques, ces toxiques-là, ici des plastiques, plus que les garçons. Et la maman aussi est là, après avoir balayé les plastiques, elle fait quoi? Elle brille. Elle inhale beaucoup, plus que le papa qui est parti au service. Tu vois, à ce niveau, ces habitudes-là. Aussi, une autre habitude, le maquillage. Tu vois, dans tout ce que vous avez comme maquillage, il y a des conservants, des substances chimiques pour empêcher à votre produit-là de ne pas se décomposer. Et ce maquillage-là, toujours dans des substances en plastique. Et tu vois, la femme peut utiliser au moins, c'est tout un kit, hein? Peut-être 8, 12. Elle touche par-ci, par-là, mais après, pourtant, papa, un seul truc, il est parti. Donc, dans tout ce qu'on a là comme boîtes de maquillage, ces additifs-là, ces conservants-là, ça nuit gravement à la santé de la femme.
Et dans la campagne, quel conseil donnez-vous aux femmes afin qu'elles réduisent l'impact de cette pollution plastique sur leur santé?
On peut revenir sur les actions vraiment écologiques. Les bonnes habitudes qu'on avait avant, utiliser les paniers pour faire les marchés que de s'atteler aux sachets plastiques. Autre conseil peut-être, vous voyez que à part les bandes hygiéniques là en plastique, il y a quand même les bandes hygiéniques en tissu réutilisables. Donc ça, ça peut les aider à éviter tout ce qui est lié à la pollution plastique. Tout est devenu plastique dans les ménages. On mange sur les plastiques, on boit sur les plastiques, on dort sur les plastiques, on donne naissance aux enfants sur les plastiques. Et on met la nourriture chaude dans les récipients en plastique. Tous ces additifs-là vont se retrouver dans les aliments et on sera intoxiqué. Là, comme conseil, il y a d'autres récipients en métal qui existent et qu'on utilisait avant l'avènement des plastiques. Parce que la vie en danger, on ne va pas attendre au récipient de substitution. Prenons les choses à main parce que c'est notre vie en général et des femmes en particulier qui est en danger.
Monsieur Faustin Yebonis, merci.
Je vous en prie.
C'est la fin de ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par Dieudonné Nyangassa avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Merci de votre attention. Bon après-midi.